Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être venus à cette conférence. Et alors, cette année est un petit peu spéciale aux Utopiales, l'année tout court, puisqu'il y a 3 anniversaires. Notamment, on fête cette année les 10 ans de la collection Lune d'encre, dirigée par Gilles Dumay, les 40 ans de la collection Ailleurs et Demain, dirigée par Gérard Klein, et alors les 30 ans de la Talente, mais les 20 ans de la maison d'édition, dirigée par M. Michaud, qui est à ma gauche. Donc, l'idée de cette conférence, c'est de fêter un petit peu ses anniversaires, se rappeler peut-être un petit peu les débuts, les grandes étapes. On va balayer un petit peu comme ça l'histoire de ces 3 collections majeures pour la science-fiction et pour la fantasy aussi. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, parce qu'on s'est rendu compte en organisant plus en débat que y a souvent pas mal de questions pour des directeurs de collection comme ça. Alors, peut-être pour commencer, revenons sur les débuts.
Je voudrais faire une remarque liminaire, oui, c'est qu'à 20 ans, on est majeur, à 40 sans doute, à 10 ans, non.
Ça, c'est pour toi, Gilles, voilà. Alors, simplement peut-être revenir sur les débuts. Est-ce que vous pouvez... Oui. Nous rappeler un petit peu comment ça s'est fait sur les débuts et quelles ont été un peu les premières années.
Eh bien, il y a, voyons, environ 13,7 milliards d'années. Bon, je passe quelques épisodes. Et en fait, quand je suis rentré d'Algérie en 1962-63, là, il faut vraiment que je reparte de là, j'ai découvert... On n'avait pas vraiment perdu de vue, mais une situation assez catastrophique pour la science-fiction en France, et en particulier pour les écrivains français de science-fiction. Donc, à partir de là, j'ai souhaité qu'il se crée chez un grand éditeur, autant que faire se pouvait, une collection qui puisse publier de la très bonne science-fiction, et en particulier faire une place aux écrivains français. J'ai fait à peu près le tour de l'édition parisienne en envoyant je ne cherchais pas du tout à diriger quoi que ce soit parce que j'avais bien trop de travail en tant qu'économiste en essayant d'écrire un peu à côté, enfin je m'écris pas mal à cette époque là donc je cherchais simplement à convaincre un éditeur de créer une telle collection. J'ai même été reçu au ministère de la Culture, enfin, etc., qui s'est révélé aussi nul que d'habitude. Enfin, et puis, j'ai vraiment fait le tour des maisons d'édition, Gallimard, qui en voudra, le Presse de la Cité à l'époque. Bon, alors, chez Gallimard, ils avaient Présence du Futur, mais qui ronronnait totalement. Il a été réveillé. Ronronner est un terme faible. Donc, finalement, je désespérais un peu quand, en 1969, probablement en fin 68 ou au tout début 69, j'ai souvent dit que c'était en mars, mais c'est pas possible parce que le contrat était signé en janvier 69, j'ai rencontré au restaurant où se tient, où s'est tenu pendant au moins 40 ans le déjeuner du lundi, Jean-Pierre Mocky, que je connaissais parce que j'avais fait un film avec lui, La Cité de l'Invisible Peur, et que je voyais de temps en temps, mais pas très souvent, qui déjeunait avec Robert Laffont, que je ne connaissais pas. Je vais saluer Jean-Pierre Mocky, qui me présente à Laffont, et en disant à Laffont, vous devriez travailler avec ce gars-là, il est sérieux. C'est d'ailleurs tout à fait vrai que je suis resté sérieux. J'étais sérieux au point que Mocky et moi, nous avions décidé de nous aimer beaucoup, mais de ne plus travailler ensemble, parce que moi, je le considérais comme un bâcleur, et lui, il me considérait comme un horrible perfectionniste. Enfin, on avait gardé, on a toujours gardé, même si on ne voit pas souvent, une solide amitié, donc il le conduit à me présenter à Robert Laffont. Robert Laffont me dit, venez me voir. Je n'ai pas rappelé à Robert Laffont à cette occasion que 2 ans auparavant, à peu près, je lui avais envoyé une note très documentée qui décrivait très exactement la collection idéale à créer et qui était Ailleurs et Demain. Donc je suis allé voir Robert Laffont et au bout de 20 minutes, il m'a dit, faites votre collection, je vous envoie une lettre. Il m'a effectivement envoyé une lettre contrat qui tient sur une page et demie, qui sera d'ailleurs exposée à Sèvres à l'occasion du festival de la science-fiction de Sèvres. J'espère qu'il sera sous vitrine, j'ai demandé deux gardes armés. Et c'est comme ça qu'à l'époque on faisait des contrats courts, hein, c'est en gros, c'était en rejoignant de bonne compagnie, tiens toujours, je vais bouger. Et c'est comme ça qu'a commencé la collection Ailleurs et Demain, dont le premier titre est paru en novembre 1969, c'était Le Vagabond de Fritz Leiber. Alors, en contradiction totale avec ce qui se pratiquait, je voulais une collection de grand format, de format normal, bon, de prix normal, à la fois pour assurer la dignité des textes et d'autre part pour me permettre de rémunérer les auteurs et les traducteurs de façon décente, ce qui a été, ce qui je crois toujours le cas. Et j'ai amené dans la foulée le titre dont personne ne voulait, mais enfin qu'ils ont fini par accepter, qui ne devait pas être si mal choisi que ça, et le papier Héliophore, qui nous a donné beaucoup de fil à retordre, si je puis dire, parlant d'un papier, et qui, dont l'idée m'était venue à partir d'une collection de disques chez Philips, Prospective 21e siècle. Enfin, j'ai beaucoup insisté pour qu'on l'utilise, et heureusement, je suis tombé sur un directeur de fabrication très, très astucieux et qui est très têtu à tout point de vue et qui a fait ce qu'il fallait pour que ça passe. Ce qui concerne le choix des textes, mon talent y a suffi.
Comment ça s'est passé les premières années? Ça, c'est l'acte de naissance un petit peu. Comment ça s'est passé les premiers mois, les premières années? Le succès a tout de suite été là? Ça a été facile?
Non, ça, oui, le succès a été là, mais enfin, il ne faut pas du tout croire que ça a été un succès gigantesque et rapide. D'ailleurs, à plusieurs moments, les gens chez Lafon étaient un peu déçus. Mais ça a été un succès d'estime considérable. Ça, immédiat et considérable, et un succès de vente raisonnable, mais enfin, ce n'était pas des best-sellers. Nous avons mis, par exemple, s'agissant de Dune, plusieurs années à atteindre les 10 000 exemplaires, à plusieurs années. Et si les pratiques d'aujourd'hui avaient eu lieu à l'époque, on n'aurait vraiment jamais dépassé les 5 000 exemplaires, parce que c'est un bouquin qui est resté sur table pendant des années et des années. Bon, aujourd'hui, chez Lafon, nous avons vendu de Dune à peu près 130 000 exemplaires. Il y a une époque où je tenais des petites fiches de tout ça, j'avais très longtemps que je ne le fais plus. C'est comme ça que je sais qu'il nous a fallu des années pour atteindre les 10 000 exemplaires. Aujourd'hui, donc, on en est à 130 000, on continue à en vendouiller un peu, et si on considère les éditions de poche, on a dû largement passer 1 million d'exemplaires. Enfin, ça paraît en mai ou juin 1970, donc dans l'année qui a suivi le lancement de la collection. Alors donc ça n'a jamais été gigantesque ou énorme, mais ça s'est établi très vite à un niveau confortable. Et puis après, bon, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des très hauts, il n'y a jamais eu de très bas.
On reviendra tout à l'heure hein, sur les très hauts et les grandes étapes. La maison d'édition du milieu, j'ai envie de dire. La Talente a 30 ans, les éditions ont 20 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être le début des deux, et la fois de la librairie, et après des livres?
Le micro marche, oui.
Oui.
Ben, c'est une petite librairie de 15 mètres carrés dans une rue qu'on était en train de transformer en rue piétonne. Et ça date de mars 1979. J'avais jamais fait ce métier-là, j'avais aucune expérience d'aucun métier du livre. Et c'était juste pour voir. Et puis, comme je venais en fait de la métallurgie, au bout de 2 ans, ce qui m'a manqué, c'était de plus rien fabriquer. Et bon, mes deux voisins sont des directeurs de collection et sont tous les deux des écrivains. Moi, rien de tout ça. C'est-à-dire, il n'y a pas tout à fait en français la différence que les Anglais font entre l'éditeur, c'est ce qu'on dirait directeur littéraire, et le publisher, celui qui publie. Eux sont des vrais éditeurs. Moi, je suis un publisher. C'est-à-dire, je fais fabriquer les livres, voilà. Et ça, c'est venu très vite parce que fabriquer me manquait. Et voilà. Donc, il n'y avait pas de vocation littéraire. Il y avait juste envie de fabriquer les livres. Et le premier est venu tout de suite après, en 81. Alors, bon, j'ai participé aussi à la traduction de ce premier-là. C'était les Mémoires de Groucho Marx. Bon. Et puis, il y en a eu d'autres comme ça au fil des ans. Très cinéma au début. Hein, Jacques Demy, après tout, bon, Nantes oblige. Hein. Un Vajda, un Fassbinder. Les Mémoires de Buster Keaton. Bon. Un cinéma de science-fiction, un grand album avec un auteur nantais. Et puis, on a déménagé. J'étais tout seul ce temps-là. Donc, c'était un, deux titres par an. On a déménagé en 86 et à partir de 88, je n'ai plus fait que de l'édition. Et donc là, réellement, 89, donc c'est les 20 ans de l'édition, on peut le dire, qui a démarré avec, d'une part, Howard Fast, qui est vraiment resté un écrivain très cher à mon cœur, et d'autre part, Michael Moorcock, dont on a réédité les trois premiers Quorums avant de faire les inédits de Quorum. Voilà. Et à ce moment-là, Mireille Rivalan est arrivée en même temps. Et ça fait 20 ans aussi, Mireille.
Voilà, santé.
Bon. Et donc maintenant, mais on a gardé, et on y tient beaucoup, beaucoup, la double fonction, le double métier de libraire et d'éditeur.
Ça veut dire que les livres, ça a été une véritable révélation au fur et à mesure, ou le succès aidant, on en fait deux, puis finalement, on se lance complètement dedans?
On s'aperçoit que c'est très agréable comme métier. Donc on essaie de le consolider, quoi. On dit, ah oui, je veux rester dans ce métier-là. On essaie de faire ce qu'il faut pour.
Et alors, pourquoi la science-fiction? Tout de suite, Moorcock arrive. Bon,
alors là, c'est les lectures de jeunesse qui reviennent. Hein, parce que quand Gérard Klein crée sa collection, moi, je faisais partie de ses premiers lecteurs. Hein. Mais j'avais déjà commencé à 12 ans avec des rayons fantastiques, du Fleuve Noir. Il y avait de très bons titres en Fleuve Noir dans cette collection-là. Mais à cette époque-là, pour trouver sa pâture, quand on était un amateur de science-fiction, c'était drôlement difficile. Rien à voir avec la prolifération des livres aujourd'hui dans tous les domaines de l'imaginaire, d'ailleurs. À l'époque, je veux dire, la naissance d'une collection comme Ailleurs et Demain, c'était du pain béni pour les amateurs.
Donc du coup, votre amour de science-fiction fait que vous éditez Michael Moorcock.
L'idée première en 89, là, l'idée première, c'était de publier ce que j'aime, c'est-à-dire tous les livres qui racontent des histoires. Tous les livres où le récit est au cœur de l'affaire et non pas la contemplation de soi-même pour l'auteur, le nombrilisme et la recherche de la belle phrase. Il y a de très belles phrases en science-fiction. Mais elles ne sont pas là pour être des belles phrases. Elles sont là pour servir le récit. Voilà. Donc c'était ça. Et au début, la collection mêlait les genres. Du moment que ce soit du roman d'histoire, des histoires. Voilà. Donc il y a eu du polar, il y a eu de la science-fiction, il y a eu Quorum de Moorcock et de la fantasy. On a sorti à l'époque l'Odyssée de l'African Queen et l'aventure de Madame Muir. Hein, donc, ça, c'était deux films, et tout était mêlé jusqu'à ce que on se fasse taper sur les doigts, ou les commerciaux nous ont expliqué, de notre diffuseur nous ont expliqué gentiment, on n'y arrive pas avec les libraires. On retrouve vos polars en rayon science-fiction, bon, alors il a fallu identifier les genres, ce n'était pas l'idée au départ. Et puis, bah oui, donc est née la dentelle du cygne qui ne contient que de la science-fiction et de la fantasy.
Non, je vais poser la même question à Gilles. Comment est née l'une dent? Quel est un petit peu l'acte de naissance? Et comment ça s'est passé sur les premiers mois, les premières années?
En 1998, Olivier Rubinstein, qui est directeur général des éditions de Noël, qui venait juste d'arriver pour remplacer Henri Marcelin, m'a téléphoné. Il m'a dit, Mario Mazurik m'a dit beaucoup de bien de vous, j'aimerais qu'on se rencontre. J'ai un problème avec Présence du futur, j'ai un problème avec la science-fiction chez De Noël. Et donc je suis allé voir Olivier Rubinstein chez De Noël. À l'époque, je dirigeais une petite maison qui s'appelait Orion Édition et Communication et je travaillais avec Olivier Girard du Bélial de Bifrost. Et Olivier Rubinstein cherchait quelqu'un pour reprendre Présence du Futur, reprendre ou modifier la collection de Jacques Chambon qui s'appelait Présence, qui était la collection avec des couvertures monochrome bleu. Et il voulait, si possible, c'est comme ça que je l'interprète maintenant, quelqu'un de jeune et malléable. C'est en quoi il s'est trompé, mais bon, ça, il ne pouvait pas le savoir. Jeune, il ne s'est pas trompé. Et au bout d'un an, sont apparues deux choses évidentes. La première, c'est que Présence du Futur ne pouvait plus être diffusée par De Noël parce que les poches étaient trop chères. Nous n'avions pas une équipe commerciale pour diffuser le poche, des poches à 12 euros, 11 euros. Les libraires ne comprenaient pas. Et donc, il fallait transformer Présence du Futur en une collection de demi-format ou une collection de grand format. Ce qui laissait planer un doute sur la collection Présence, qu'est-ce qu'elle allait devenir. Et le vieux projet de créer une branche science-fiction chez Gallimard dans la collection Folio s'est imposé à la direction de Noël qui a assez rapidement enterré Présence du Futur, participé à la création de Folio SF et participé à une nouvelle collection de grand format donc qui était Lune d'encre, qui c'est un nom que j'ai trouvé. Et qui prenait la suite de Présence, puisqu'il y avait des titres achetés par Jacques Chambon pour Présence. Je pense à René Rouven, par exemple. J'ai assumé l'héritage et j'ai continué Présence, non pas avec des couvertures monochrome bleu dont la pertinence commerciale me semblait pour le moins suspecte, mais avec des couvertures illustrées qui n'étaient pas très réussies au départ, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, avec le temps, on a appris.
Alors, il y a trois premiers titres, hein, si j'ai bien de mémoire, dans Lune d'encre. Et oui, vas-y.
Oui, il y a eu un lancement avec trois titres, qui étaient La Partition de Jéricho de René Rouven, Le Bal des Loups-Garous et Existence de Christopher Priest, qui était une novélisation.
Comment se passent les premiers mois, là ? La collection arrive à s'imposer facilement, à trouver son rythme ?
Non, pas du tout. Là, au bout de trois mois, tout le monde était catastrophé chez De Noël par les ventes, les résultats, les non-résultats, on peut appeler ça comme on veut. Et j'ai eu la vie sauve grâce à Edmond Hamilton. J'ai publié les Loups des Étoiles, qui est pareil que pour Pierre. Il parlait de Moorcock, Corum. Moi, c'était Hamilton, les Loups des Étoiles. Quand j'étais gamin, j'avais adoré ça. C'était en CLA. Et donc, avec Pierre-Paul Zurastanti, on a retravaillé la traduction. On a réédité le livre avec une couverture de Manchu, un seul volume. Et j'avais fait baisser le tirage parce que j'y croyais pas du tout. Le livre a été épuisé très vite, il y a eu un retirage. Comme c'était il n'y avait pas de traduction, ça a été rentable très rapidement et ça a eu permis de récupérer les comptes de la collection assez vite. La même année, juste le mois d'après, j'ai publié Darwinia de Robert Sher Wilson, qui était ma première traduction ambitieuse dans cette collection. Et très rapidement aussi, le livre, tiré à 5000 exemplaires, a été épuisé, a été retiré. Et donc voilà, au bout de 4-5 mois, on avait deux titres qui étaient rentables, etc. Après, il y a eu de nouveau une série de catastrophes commerciales sans nom. Et pendant des années, j'ai eu un ou deux titres qui sortaient du lot et qui permettaient à la collection de continuer, disons, sur de bonnes bases.
Quel était un peu le cahier des charges de Donnel en termes éditorial ?
Moi, c'est pareil, rétrospectivement, je pense qu'il s'est vraiment affiné avec les années. Au départ, Olivier Rubinstein voulait continuer l'imaginaire, la science-fiction, parce que c'était une partie de l'image de marque de Noël. Ça faisait 55 ans qu'on en faisait. Et il était attaché à la science-fiction littéraire, à une certaine image, Ray Bradbury, un peu poétique. Et avec mes goûts, j'ai mélangé un peu les deux, c'est-à-dire assumer l'héritage et aussi amener mes auteurs. Moi, c'est vrai que Robert Sher Wilson, c'est un auteur que j'avais découvert en tant que lecteur chez J'ai lu avec Mysterium, qui est un livre que j'avais adoré. Et dès que l'agent me l'a proposé, Darwinia, j'y suis allé, pour être tout à fait franc, juste en lisant le début du livre. J'avais même pas lu le livre jusqu'au bout, mais je voulais l'auteur. Je me suis dit, bon, voilà, je prends Darwinia, les critiques sont bonnes, il y a un bon papier dans le locus, allons-y. Et puis, voilà, avec les années, la collection. Donc il y a une collection sans étiquette, on ne met pas science-fiction, on ne met pas fantasy, ça mélange de tout, y compris des livres de littérature générale comme Mother London de Michael Moorcock. La collection s'est construite comme ça, elle reflète énormément mes goûts, et puis j'essaye d'assumer l'héritage de Noël.
Oui, allez-y.
Je
voudrais dire que Ailleurs et Demain, au fond, au départ, a été également une collection sans étiquette. Et je crois qu'on peut regarder les 100 premières, les 100 premières quatrièmes de couverture. On ne trouvera pas une fois le mot science-fiction. Non pas que ça a été volontaire, on oublie, ou une omission volontaire, mais simplement parce que bon. Je publiais ce que je voulais publier dans cette collection. J'ai d'ailleurs publié un petit peu de fantasy. Alors, je dois dire une chose, c'est que quand j'ai commencé Ailleurs et Demain, je n'ai pas tellement l'intention, moi, de diriger une collection. J'avais amplement à faire, sans parler de toutes les missions que j'ai pu faire à l'étranger à cette époque-là. Et je n'avais aucune expérience de l'édition. J'avais beaucoup publié en livres et en revues, mais je n'avais vraiment aucune. J'ai tout appris sur le tas. Je voudrais dire que ma culture d'économiste et ma pratique de l'économie m'a beaucoup aidé. Puisqu'on parlait de vente et de pendant au moins 10 ans, on n'a jamais rien vendu en dessous de 8000 exemplaires. Après, la dispersion s'est consciemment augmentée. On ne vendait pas nécessairement très au-delà, sauf un certain nombre de titres, pas beaucoup plus, mais on vendait toujours, mais pendant au moins 10 ans. Alors ça assurait un bon matelas.
Et quelles ont été un petit peu les grandes étapes, peut-être les grands tournants pour vous de la collection ?
Les grands tournants, dans quel sens
Peut-être les auteurs les plus marquants ou les années où là il y a eu un changement.
Si quelqu'un veut me passer un bouquin avec la liste à la fin, je dis non. Enfin, ça a été indéniablement Franck Herbert. Non, mais il y a eu un autre auteur qui a énormément compté, que j'avais découvert en France longtemps auparavant, c'était Philippe K. Dick. Et si je n'avais pas été aussi stupide, j'aurais publié quelques-uns des plus grands digues, dans Le Maître du Haut-Château, etc. Parce qu'avant d'avoir cette collection, enfin, Le Maître du Haut-Château, Nos Amis de Frolic Suite, enfin, des tas de choses sont parues chez Opta. Parce qu'avant d'avoir cette collection, j'avais fait Le Siège de Dorémieux, qui était très réticent, pour qu'il publie les grands Dick, et en particulier Le Maître du Haut-Château. Il aimait bien Dick, mais il disait ça ne marchera pas en France, enfin les Français n'ont pas aimé ça, etc. Si je n'avais pas été con à ce point-là, six mois après, j'avais ma collection et je publiais tout ça. Alors, j'ai récupéré Dick avec Ubik, qui est probablement quand même, en tout cas à mes yeux, son chef-d'œuvre. Et alors après, il y a eu Farmer, donc j'avais publié un texte relativement mineur mais pas inintéressant, Ose. Et puis quelques années après, je ne sais pas trop ce que Farmer a fait après, mais je rencontre Philippe-Joseph Farmer, je crois que c'était à Metz, et on sympathise, enfin on échange des tas de trucs, et à un moment, Philippe-Joseph Farmer me dit: je connais votre collection, merci pour Rose, etc. Il dit, il y a une chose que j'aimerais vraiment, c'est que la série du fleuve paraisse dans votre collection. Je lui dis, banco, moi aussi. Et donc, elle est ressortie en classique, puisqu'elle avait déjà fait l'objet d'une publication, je crois, chez Opta. Et puis, j'ai fait toute la série, et ça a été un des grands moments. Bon, un autre grand moment, ça a été évidemment Hyperion. À un moment où c'était un peu difficile, chez Lafont en général et pour ma collection en particulier, et en montant comme un arracheur de dents, je fais acheter Hyperion, qui est un énorme bouquin, disant pas que c'est le premier volume d'une série de deux, et il a démarré sur les chapeaux longs. Jamais on a eu un succès aussi rapide. On est arrivé à 50 000 exemplaires pas quelques mois, mais en quelques années, enfin 2-3 ans. Ça n'est jamais arrivé comme ça. Et c'était une période vraiment difficile parce qu'il y avait un nouveau président général, je ne nommerai pas, qui était un confini et qui d'ailleurs m'a éjecté comme éditeur principal chez Lafont 2 ou 3 ans après, dont l'année suivante, mais et qui voulait liquider la collection contre l'avis de Robert, mais Robert n'avait plus tous les pouvoirs. Et donc, je crois qu'il y a eu 9 réimpressions pour atteindre 11 000 exemplaires. Il était tout le temps en manque, parce qu'ils réimprimaient, des éditeurs ici, ils verront quelle stupidité ça pouvait être, mais ils réimprimaient par tranche de 1000 ou 500, ou etc. Alors, il y avait une demande, et finalement je me suis demandé après si le fait que ça manquait régulièrement n'alimentait pas comme un désir chez les libraires, voire même chez les acheteurs. Enfin bon, ça... Alors après, les 10 000 exemplaires, après ils ont fait des réimpressions pour un coût de 5 ou 10 000, et ça a flambé. Je n'ai jamais eu un succès aussi rapide. J'ai eu des succès raisonnables après, mais avant et après Hyperion, je n'ai jamais rien vu d'aussi rapide.
Et dans les dernières années, des auteurs qui ont été marquants?
Dans les dernières années, il y a eu les autres, Dan Simmons, qui ont très très bien marché, peut-être un peu moins bien, mais pas tellement que Hyperion, Endymion, etc. Il y a eu des livres que j'aime toujours beaucoup, donc qui représentent en quelque sorte des tournants, mais il n'y a pas eu de succès aussi considérable que ceux que j'ai eu avec Simmons. J'ajouterais que quand j'ai pris Hyperion, je ne savais pas que j'ai lu, avait déjà publié un Dan Simmons, Le Chant de Kali, si je me souviens bien. Je ne savais pas, je ne connaissais pas ce bouquin. Sinon, j'aurais quand même posé la question à Jacques Sadoul. On s'est toujours très très bien entendu, hein. J'aurais été très correct. Généralement, les éditeurs de science-fiction, une ou deux exceptions près, sont très corrects entre eux. Et franchement, je ne le savais pas. Quelques mois après, Sadoul se réveille. Le bouquin était déjà disponible depuis longtemps, enfin en anglais. Sadoul se réveille et demande à l'agent Hyperion. Et l'agent lui dit, c'est quelqu'un qui l'a acheté pour la fond. Terminé. Il ne m'en a pas voulu.
Alors, pareil pour... La Talente, quels ont été un petit peu les grands moments des éditions ou les grands tournants?
Alors oui, il y a ce passage en 89 où la maison d'édition... Bon, en 89, il y a 15 nouveautés. Voilà, c'était parti à ce moment-là. Et puis, dans ces 15-là, il y avait Moorcock. Moorcock qui avait eu une carrière importante en France et qui était vraiment un petit peu oublié à ce moment-là. Alors, on a commencé par rééditer trois titres de fantasy dans le genre des Elric, quoi, de la fantasy flamboyante, du roman d'aventure. On a fait les inédits de la même série, et après, on a continué d'autres Moorcock. Ça a été un peu le premier qui a bien marché tout de suite. Hein. Et Michael Moorcock nous a toujours gardé une sympathie particulière parce qu'il estimait qu'on était ceux qui l'avaient relancé en France. Alors après, c'est très simple. Orson Scott Card, Terry Pratchett, Pierre Bordage. Voilà. Là, j'ai tout dit sur les grandes réussites commerciales de la Talente. Hein. Bon. Un petit peu moins aujourd'hui, Orson Scott Card. Au début, il a été probablement le premier. Hein. Les chroniques d'Alvin Lefeuzeur, on les a démarrées en 91. Bon, ça, c'est... Bon, toutes éditions confondues... Que je dise pas de bêtises. Ah oui, mais Folio a pas bien réussi avec Alvin. Pour ça qu'on le, c'est fini. On l'aura pas laissé. Mais nous, bon, toutes éditions confondues, ça doit être autour de 40 000. C'est pas énorme, hein, quand même. Bon, Pratchett, c'est le double. C'est bien. Ah ben, c'est bien s'ils étaient tous comme ça. Mais pour un grand succès, bon, Pratchett, c'est le double, toutes éditions confondues. Et Pierre Bordage, je sais pas, non, il est en train de causer à côté. Hein. Je pense qu'on va, toutes éditions confondues, pour le premier livre, Les Guerriers du Silence, je pense qu'on va sabler son 100 millième exemplaire très, très bientôt, je dirais, dans les mois qui viennent vraiment. On en est au bord, là. Voilà. Donc ça a été les trois grands, du moins dans la puisqu'on ne parle que de science-fiction et de fantasy aujourd'hui. Hein.
Racontez-nous peut-être la rencontre avec Pierre Bordage.
Il est là-bas. Vous avez là-bas Patrick Couton qui est traducteur de Terry Pratchett à la Talente, qui n'a pas traduit que ça. Il a traduit justement aussi du Moorcock. Bon. Et Patrick Couton, figurez-vous, a été le professeur de banjo de Pierre Bordage, du temps où Pierre Bordage hantait l'université de Nantes. Et c'est comme ça un jour, parce que Pierre, qui vivait dans la banlieue parisienne à l'époque, était journaliste sportif, avait vu le nom de Patrick sur un de nos livres comme traducteur. Il s'est dit, mais je le connais, ce type-là. Ça fait combien, 20 ans qu'on ne s'est pas vu, mais je le connais. Et il lui a envoyé le manuscrit des Guerriers du silence qui avait été, c'est toujours la même histoire, un peu refusé partout, avec évidemment comme argument majeur que c'était un pavé de 700 pages. Et Patrick me pose ça un jour sur mon bureau en disant, voilà, j'ai un ancien élève de banjo. Et voilà. Et donc, on a lu les Guerriers et ça a été oui tout de suite.
Gérard Klein, vous vouliez ajouter
quelque
chose.
À propos des tournants et des grandes rencontres, il y a quand même deux noms que je tiens absolument à citer. C'est ce John Brunner qui est devenu un grand ami et a publié tout ça dans Zibar. Ça a été une sacrée entreprise parce que la traduction, c'était pas rien, entre autres. L'autre, c'est évidemment Michel Jury, dont j'ai reçu le manuscrit par la poste. Je lui ai pas répondu tout de suite parce que j'étais en mission je sais pas où. Mais enfin, dès que j'ai pu, peut-être un mois après que je l'ai reçu, c'était pas je lui ai envoyé une lettre enthousiaste. Enfin, et alors sa mère m'a après raconté que ce jour-là, Jury était rentré très déprimé des champs parce qu'il était ouvrier agricole. Alors, il a dit à sa mère, j'ai perdu dans les vignes, j'ai perdu mon canif. Et à ce moment-là, il ouvre ma lettre. Il la lit et il dit à sa mère, « Maman, je crois que je vais pouvoir me racheter un canif. »
Gilles.
Ce sont toujours des grands amis. Et d'ailleurs, je pense, l'an prochain, publier un nouveau roman de science-fiction de Michel Jury.
Ça, c'est une bonne nouvelle. Gilles, pareil un petit peu avec toi. Quelles ont été les grandes étapes ou les grands tournants pour toi, pour la collection?
Moi, c'est plutôt des rencontres que des étapes. C'est vrai que j'ai rencontré Robert Sherwilson assez rapidement, puisque... c'était juste après Darwinia à Chicago, et j'étais allé le voir et on s'est tout de suite très bien entendu, notamment parce qu'on a des goûts musicaux qui se rejoignent sur Neil Young entre autres. Et puis Christopher Priest, très vite, qui est devenu un ami, Robert Holstock qui est un ami, Michael Moorcock avec qui je m'entends très bien et dont j'ai publié Mother London. Pour moi, c'est vraiment, même si c'est pas de la science-fiction et c'est probablement de la littérature générale, peu importe, c'est un des livres les plus importants que j'ai publié. Et puis il y a plein de Français là depuis quelques années, comme Laurent Clotzer ou Norbert Mergénian, sont des gens que j'ai découvert en travaillant avec eux et que j'ai vraiment plaisir à rencontrer. Je le compte comme ça. Après, maintenant, s'il faut choisir un livre ou deux livres, je vais pas parler de l'aspect commercial, parce que voilà, l'aspect commercial, tout le monde sait, c'est Spin, le plus gros succès de la collection. Mais si je vais choisir deux livres de la collecte et en me disant, voilà, les deux dont je suis le plus fier, ce serait probablement Le Prestige de Christopher Priest, même si c'est un livre sur lequel on n'a pas gagné un euro, je crois même pas un centime d'euro, malgré le film de Christopher Nolan, et Vellum de Alden Kahn, parce que c'est concentré dans un livre tout ce que j'aime en littérature. Voilà. Et on est très loin de ce qu'aime Pierre, puisque Vellum, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de narration, c'est complètement éclaté, c'est complètement détruit, mais moi j'aime ça aussi. Voilà.
Oui, je voulais vraiment tirer un coup de chapeau là. Tu m'y as fait penser. Pas à Gérard Klein, il n'en a plus besoin. Mais à Gilles, parce que Mother London de Michael Moorcock, celui-là aussi, je l'avais lu. Et qu'est-ce que j'aimais ce livre. Mais il me disait, tu ne peux pas sortir ça, c'est pas possible, tu ne vas pas vendre 300 exemplaires. Les lecteurs de Moorcock vont être sidérés. C'est un grand livre et je n'ai pas osé. Je me suis dégonflé. Mais Gilles, lui, s'est pas dégonflé.
On l'a bien vendu d'ailleurs. Hein. C'est un livre qui a très bien marché, et en grand format et en poche.
Voilà. L'histoire d'un éditeur s'est fait d'erreurs aussi beaucoup. Oui.
Alors, vous avez compris, c'est à la fois plein d'histoires et de rencontres. Il y a évidemment tout un tas de questions à leur poser, mais est-ce que vous avez des questions? Il nous reste un quart d'heure. Peut-être, monsieur. Hop.
Bonsoir. C'est une question que beaucoup de nouveaux et jeunes auteurs doivent sans doute se poser, mais c'est sur quels critères vous basez pour accepter une bonne histoire ou un bon ouvrage, en fait?
La réponse, c'est qu'il y a pas de critère, ou plus exactement, il y a un seul critère, j'ai envie de le publier.
Alors, j'ai vraiment pas d'autre réponse. Et on n'est pas des, on n'est pas des critiques littéraires, on n'est pas des, oui, mais c'est en dehors. On n'est pas des profs. C'est, on n'a pas de leçon à donner. C'est vraiment, ouais, j'ai aimé ce que vous m'avez fait là, j'ai envie de le faire. Voilà. Il n'y a pas d'autre raison.
Cela dit, si tu permets, ce qui m'est arrivé quand même assez souvent, c'est de réorienter à des manuscrits qui me paraissait intéressant, et je pense que tous les éditeurs font ça, en disant non, c'est pas pour ma collection, c'est pas pour moi, mais allez voir chez un tel ou un tel, vous aurez peut-être plus de chance, et puis pour la suite on verra. Alors ça m'est arrivé en particulier avec Les Racines du Mal, j'ai pas reçu ce manuscrit là, mais j'avais reçu le manuscrit, si j'avais reçu celui-là je l'aurais très certainement pris, mais j'avais reçu le manuscrit de La Sirène Rouge. Bon, je trouvais que c'était un polar, donc j'ai dit à moi son nom à Dantec, j'ai dit à Dantec, pour il devrait être une collection de polars, pourquoi pas la série noire. Et Maurice Dantec l'a fait, et puis ça a donné ce que vous savez. Et Dantec a eu l'élégance et la gentillesse d'envoyer Les Racines du Mal avec une très gentille dédicace, me remerciant du conseil que je lui avais donné.
Alors,
j'ai ces dernières années signé plusieurs romans, premiers romans français arrivés par la poste. Et c'est vrai que je suis très très attentif. Aux manuscrits qu'on reçoit, on en reçoit dans mon seul service 600 par an. Moi, j'ai pas de meilleure réponse qu'eux. Ça se passe toujours de la même façon en ce qui me concerne. Je commence à lire le manuscrit. Entre la troisième et la quatrième ligne, je sais que je vais publier le livre. Ça s'est toujours passé comme ça. Ce sentiment monte. Et au fur et à mesure qu'il monte, je suis de plus en plus convaincu. Et ça vient très très vite dans le manuscrit. On reçoit beaucoup de très mauvais manuscrits et c'est vrai que des fois c'est épuisant physiquement, il y a un moment où, mais le plaisir de trouver un truc que même on va pas publier, qu'on va dire voilà, monsieur, je suis désolé, c'est pas pour moi, mais vous pouvez l'envoyer à Mnemos, vous pouvez l'envoyer à un tel, ce plaisir là c'est vraiment, pour moi c'est l'adrénaline du métier, c'est ce que j'aime le plus dans ce métier là, c'est tomber sur un mec qui n'a jamais publié et me dire, un mec ou une nana, et me dire ouais, c'est formidable, où il faut y aller, où il faut lui donner un coup de main. C'est ça que j'aime.
Alors, est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Allez-y, c'est le moment. Oui.
Quels sont les coups de cœur actuels ou futurs? Puisqu'on parle non seulement de l'anniversaire, mais je pense aussi de la continuité des collections. Donc, La Talente, c'est vrai que ce qu'elle dit a été une belle introduction en France d'un auteur intéressant. Je pense qu'il y en a beaucoup d'autres aussi que vous avez dans le cœur ou dans l'élément. C'est la même question un petit peu à tous.
Ah, c'est toujours le dernier, hein, le coup de cœur. C'est un peu dit... Oui, non, c'est vrai. Tous les éditeurs ont une amitié particulière pour les auteurs qu'ils ont fait découvrir, voilà. Bon, et qu'ils ont fait découvrir ou fait découvrir en France pour ce qui est des auteurs étrangers. Hein. On n'est pas des juges. On a nos amitiés particulières, mais on garde une chaleur à ceux qu'on a fait naître auprès de ce lectorat-là.
Alors, quels sont les prochains coups de cœur à venir? Ça, c'est toujours la colle. Hein. On va peut-être demander à Gilles Dumay et puis vous laisser le temps de réfléchir.
Moi, ça va être assez simple parce que l'an prochain, je publie deux premiers romans qui sont arrivés chez Donald par la poste. Le premier en février qui s'appellera Les Démons de Paris, qui est un thriller surnaturel dans le Paris 1910, qui est un livre sur lequel il n'y avait absolument aucun travail éditorial à faire, qui arrivait impeccable dès le départ. Et le deuxième livre qui sortira probablement en juin ou en septembre, je ne sais pas encore, c'est un livre de 2000 pages, rien que d'y penser, je suis malade, qui s'appelle Le Vaisseau Ardent, qui est histoire de piraterie, de paradoxes temporels, de Jean-Claude Marguerite, un roman monstrueux dans tous les sens du terme. Et en même temps, c'est tellement enthousiasmant de recevoir un projet littéraire comme ça, un type qui passe 15 ans de sa vie à écrire un livre, et vous arrivez une ramette de papier de 2000 feuillets. Voilà, bon, ça c'est les deux prochains coups de cœur en ce qui me concerne.
Moi, je vais quand même revenir un peu sur le passé, mais récent, j'ai eu un très grand coup de cœur pour la tétralogie d'Edward Whitmore, qui n'a pas fait un succès considérable, mais la vente étant continue et régulière, on peut espérer qu'au bout de 25 ans, ça deviendra vraiment un best-seller. Beaucoup plus récemment et pour l'avenir, j'ai eu un vrai coup de cœur avec une trilogie à paraître de Robert Sayer, qui est un écrivain canadien britannique. C'est un auteur que je suis depuis au moins 10 ans et qui me paraissait pas tout à fait disons à la hauteur de mes attentes, donc j'ai un peu laissé passer. Et je vais publier une série qui va s'appeler Éveil, Veille et Merveille. En anglais, c'est Wake, Watch et Wonder, WWW, et qui est l'histoire extraordinairement bien construite, au moins à mes yeux, mais je crois vraiment extrêmement bien construite, de l'émergence d'une intelligence sur le net, enfin sur le web. Alors c'est à cause de cette trilogie que j'ai pris Rollback, de façon à bloquer les choses, qui est un livre que j'aime bien, mais enfin qui me semble plus moyen. C'est pas le coup de cœur que j'ai eu. Pour l'instant, j'ai lu deux. L'un va paraître en février, le deuxième paraîtra pour moi la fin de l'année prochaine. J'ai lu les deux premiers, je trouve ça absolument génial. C'est un grand livre sur l'humain, enfin, sur l'humanité. Ça recoupe un peu les questions qu'on se posait tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est qu'un humain? Qu'est-ce que c'est qu'un humain augmenté? C'est en particulier l'histoire d'une jeune fille qui est aveugle pour des raisons neurologiques. Et la façon dont on parvient à la traiter va jouer un rôle, c'est pas le seul élément, mais dans l'émergence de cette intelligence artificielle sur le net. Voilà, pour moi c'est un très grand livre.
Alors pour la Talente,
nous avons un ami suisse qui s'appelle Vincent Gessler et qui est en ce moment ici à Nantes, et dont on va publier un livre dont le titre peut-être encore un peu provisoire est Cygnus, qui sera pour le printemps.
Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Une fois, deux fois, trois fois. Alors, je pose une dernière question. Il nous reste environ 10 minutes. D'abord, ça vous fait quoi, ces anniversaires? Est-ce que ça représente quelque chose, 40 ans, 20 ans ou 10 ans? Qui veut répondre?
Moi, je suis très ému par cet instant. Ça fait 40 ans que je l'attends.
Gilles, Pierre,
je sais pas, c'est un coup à boire.
C'est une bonne réponse aussi.
C'est un formidable support pour une grande opération commerciale.
D'accord, voilà, comme ça c'est fait. Et deuxième chose, est-ce que les choses sont plus faciles maintenant qu'avant? C'est une question qui est à la fois bateau et compliquée. Est-ce qu'aujourd'hui c'est facile d'être éditeur à la tête de ces collections?
Oui, parce qu'on n'a pas le même statut là, vraiment. J'aimais mieux au début. Parce que là, on ne fait pas le même métier. Moi, je suis chef d'entreprise, je n'aime pas ça. Voilà. Travailler des livres, oui. Mais la gestion d'entreprise, c'est nul. Vraiment, c'est nul. Alors, est-ce que c'est plus difficile? Bon, moi je trouve très très bien qu'il y ait eu une floraison des littératures de l'imaginaire ces dernières années en France, hein, où après tout le lectorat augmente en même temps. Si c'est plus difficile parce qu'il y a plus de concurrence, c'est pas forcément une mauvaise chose. Non, c'est le côté chef d'entreprise que j'aime pas, j'en ai marre.
En ce qui concerne côté chef d'entreprise, je te comprends entièrement parce qu'on m'a plusieurs fois proposé de le devenir. Et j'ai résisté. Non, la situation actuelle, en grande partie à cause de la surproduction, je me suis longuement expliqué sur le net là-dessus plusieurs fois, est très très difficile. C'est certainement un des moments les plus difficiles que j'ai jamais connu dans mon expérience de l'édition. Il y a une surproduction colossale, et ceci à un moment où, je parle vraiment de surproduction au sens de l'économiste, enfin au sens de l'économie, bon, il paraît trop de livres, paraît trop de titres. Bon, considérons le nombre de livres en général. Il paraissait, il y a 20 ans environ, en France, 35 000 titres par an, toutes catégories confondues, du livre de cuisine au thriller, en passant moi à science-fiction, tout ce que vous voudrez. Aujourd'hui, il en paraît plus de 70 000. Dans l'intervalle, d'après toutes les estimations dont je peux disposer, le lectorat et l'achat de livres a reculé au minimum de 10%. Bon, les éditeurs mentent, le syndicat du livre ment, enfin tout le monde ment, mais enfin il y a quand même un certain nombre d'indicateurs assez précis. Ce sont des chiffres que je vous donne à la louche. Si quelqu'un me démontre qu'ils sont faux à 15% près, je ne discuterai pas une seconde. Mais simplement, ça indique bien les ordres de grandeur. Il y a eu une fuite en avant généralisée de l'édition, pas seulement dans l'imaginaire, mais aussi dans ce qu'on appelle l'imaginaire. Il y a eu une fuite en avant généralisée. Ça ne peut se terminer que par une catastrophe. Enfin, il ne faut pas se raconter l'histoire. Donc, les temps sont franchement très difficiles, pas dire le contraire. Cela dit, survie, pas si mal.
Gilles ?
Je suis entièrement d'accord avec ce que Gérard vient de dire. Je trouve que ça n'a jamais été aussi dur. Je parle humainement, le travail, la difficulté de présenter des livres, de mettre des livres en place en librairie, de parler des livres. Tout est extrêmement saturé, il y a trop de livres. Jusqu'à très récemment, je pensais qu'on fonçait tous dans une immense mur et qu'on allait tous... s'écraser comme des crêpes. Je suis moins sûr maintenant, parce que je me dis qu'il y a un truc qui va rentrer en jeu, qui est le livre électronique, et qui va arriver beaucoup, beaucoup plus vite que ce qu'on croit. Moi, je vois ce qui se passe dans le groupe Gallimard, dans le groupe dans lequel je travaille. Je vois sur tout ce qu'on prépare. Je vois que les liseuses vont être probablement le gros, gros cadeau des prochaines fêtes de Noël, et ça ne peut aller qu'en augmentant. Je pense que le métier du livre, il va se restructurer. Je ne sais pas comment, je ne suis pas Cassandre, je n'ai pas de boule de cristal, mais il va y avoir des changements, c'est sûr. Bon, mauvais, je ne sais pas.
Bon, je voudrais juste dire un mot là-dessus. Bon, ce qui concerne l'avenir des liseuses, je ne sais pas très bien, ou ça serait un très long débat. Bon, j'ai mon point de vue et je le partage comme vous. Mais mon sentiment, fondé sur mon expérience d'économiste et pas uniquement dans le domaine de l'édition, c'est que ça va aboutir, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, à une extraordinaire concentration sur les best-sellers. Et quand vous, déjà le phénomène Amazon, alors la vente par correspondance, enfin la vente par le net, aboutit à une extraordinaire concentration. Et tout à fait en dehors des domaines qui nous intéressent, nous observons un phénomène sans précédent dans l'édition. C'est la taille des best-sellers, la concentration du marché. On vend moins de livres, mais on vend de plus en plus des best-sellers. Quand Robert Laffont a publié en 1968 son Papillon, tout le monde a considéré que quand il a tapé le million d'exemplaires, ce qui incidemment lui a permis de financer Ailleurs et Demain, donc c'est très bien, quand il a atteint le million d'exemplaires, qui n'ont pas jamais beaucoup dépassé, tout le monde a considéré que c'était une vente, un best-seller monstrueux. Enfin, c'était devenu un phénomène de société, des gens qui protestaient contre le fait que ça détruisait la littérature, etc. Bon, la fille de Robert Laffont, je connais assez bien, Isabelle Laffont, chez Lattès, a en 6 mois, à peu près, un an au maximum, fait 2 200 000 exemplaires du Dan Brown que vous connaissez. Bon, c'est tout, on atteint. Et à l'heure actuelle, chez Hachette, ils ne savent plus comment faire pour imprimer assez vite les Stéphanie Meyer, un truc comme ça. Donc il y a un phénomène de concentration sur les best-sellers qui est totalement sans précédent dans l'histoire de l'édition. C'est d'ailleurs la même chose aux États-Unis, et c'est quelque chose d'extrêmement destructeur. Et pour moi, les liseuses vont contribuer, que ça intervienne demain ou dans 10 ans, vont contribuer considérablement à cette concentration. Qu'est-ce qui se vend chez Amazon? La première page, point final.
Bien, bon, ça nous tombe un peu sur la fin, mais c'est pas grave, on est arrivé au terme du débat. Je vous remercie, je voudrais que vous les applaudissiez, parce que c'est quand même... trois monuments de la SF française. Et puis on vous souhaite une bonne soirée.